originale. Soyez les bienvenus sur France Inter avec Morgane Cadignan, avec Alexis Le Rossignol, avec notre cher Jérémy Crédville, tout à l'heure Tanguy Pasturo, Daniel Morin et notre invité Laurent Mariotte.
Oh, c'est bien.
Et on va manger avec Laurent.
On va manger.
On va parler cuisine avec son livre « Mieux manger sans se ruiner » aux éditions Solar. Et aussi ce magazine « Les petits plats » de Laurent Mariotte. C'est un bimensuel avec plein de recettes, plein d'infos, des portraits aussi de personnalités. Là, c'est Pascal Obispo qui a raconté un petit peu ce qu'il aimait manger. Blind test pour commencer. Lui, c'est la galette, tu verras. Pour commencer, le blind test d'après vous, on va faire un blind test autour de quoi ?
De la cuisine ?
Moi, sans doute. Premier titre.
Daniel ?
Ouais.
Supertramp.
Ouais. Le titre ?
Miam.
Non.
Brian is in the kitchen.
Breakfast in America.
Ouais, bravo Daniel. Premier point pour Daniel. Supertramp.
Ce sera le seul.
Deuxième titre, attention.
C'est ma préférée.
C'est les cornichons ?
Non. Moi, je la connais, ça, pas perso. Hein,
c'est pas un Benabar ? Non.
J'ai découvert hier.
La balade du sandwich ?
Non. Ah.
C'est français. Oh, Jérémy ! C'est Joe Dassin.
Ouais, bravo.
C'est les petits pains. Non, c'est pas les petits pains.
Les joies de la cuisine.
Ah ouais. Les joies de la cuisine.
Hey ! Tu louches pas mal.
Un petit service, mais une cuisine.
Un point pour Jérémy, un point pour Daniel, troisième titre. C'est pour Daniel.
Ok, okay. D'accord.
On a parlé d'amour et de violet.
Daniel, c'est les Charlots.
Attends.
C'est les Charlots.
Qui a dit d'abord son prénom?
Daniel.
C'est Daniel.
Ouais.
Et en effet,
la
c'est
reine des paupiettes.
Bien sûr.
Paulette.
La reine des paupiettes.
Ah, c'est Paulette.
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 Tu m'aimes. Notre amour ne serait pas si beau.
On la laisse en entier.
Ouais. Ah,
s'il vous plaît. Il y a quand même une chanson sur des paupiettes.
Paupiettes, j'ai hésité avec Fais-moi du couscous chéri, mais je crois qu'on l'avait déjà fait.
J'ai
donc
pas tout fait ici.
C'est toujours un plaisir quand même.
J'adore cette chanson. Quatrième titre. Attention, ça peut aller très rapidement là.
Daniel.
Oui.
No milk today.
Ah, bravo Daniel.
Ah, wow. Ah mais
tu
oui.
Peux
la chanter ?
No milk today. Herman's Hermit.
Ah, Herman's Hermit. C'est oui. No
milk today. 3 points pour Daniel.
Tiens, il y a Alexis, ouais. Il est là.
Joli t-shirt. Vous êtes
5e titre, tenez-vous prêts.
Jérémy, haricot blanc.
La voix.
Jérémy, Renaud.
Oui, non.
Florian, Renaud.
Daniel.
Oui.
Gréco.
Bravo, Daniel.
Qui donc ?
Juliette Gréco.
La cuisine. Juliette Gréco.
Celle-là.
Julien Gréco.
La cuisine.
J'en ai mis pour toutes les générations, hein, comme
oui,
ça tout le monde est servi.
Ouais.
Voilà. Il reste 2 titres.
Ah, okay.
Le prochain est facilement. C'est surtout la voix qui va vous aider, parce que le début, je doute que vous connaissiez.
Ah bah. C'est Biolay ?
C'est contemporain.
Ouais. Hein.
C'est un artiste qu'on a souvent reçu ici.
Alain Souchon ? Didier Barbelivien ?
Non.
Benabar ?
Qu'on a déjà reçu ici.
Raphaël ?
Julien Clerc ?
Non, mais écoutez.
Elton John ?
Poulet numéro 728 100.
Morgane, oui. C'est Philippe Catherine.
Oui.
Poulet de Vendée.
Ah ouais.
Parmi 380 autres poulets.
Ah oui, mais il donne moins.
La chanson, c'est Poulet numéro 728 120.
Ça dénonce la société de consommation.
Tu crois?
Ouais, je pense.
Premier point de Morgane, et un beau point.
Le 3 décembre 1998.
Et c'est le Super Banco.
Ah.
Ça va être de la rapidité.
Et on joue tout de suite pour
c'est
le super
de la rapidité.
Banco.
Rapidité, on continue de jouer autour de la nourriture, de la cuisine, pour recevoir Laurent Mariotte. Dernier titre.
Daniel ?
Ouais.
Manu Chao ?
Ah oui.
Et
ses amis ?
Non.
Amadou et Mariam.
Amadou et Mariam. Et le titre ?
Et ses amis.
Le titre. Le sonnet ?
Ah, il y a Kitchen dedans.
Ouais, mais... Kaboul Kitchen ?
Bamako Kitchen ?
Sénégal, fast food, et c'est une victoire de Daniel Morin, s'il vous plaît. Une victoire incontestable.
Sur la bouffe.
Allez, on participe.
Allez.
Et on accueille notre invité, Laurent Mariotte, s'il vous plaît.
France Inter.
Alexis.
Bah oui.
Bande originale.
Alexis est en train d'écrire en fait.
Il a cadeau.
Il travaille.
Ah bah, je comprends mieux maintenant.
Méchant. Laurent Mariotte, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Leïla. Bonjour tout le monde.
Bonjour Laurent.
On va parler de cuisine forcément avec un bouquin. J'en parlais tout à l'heure. Mieux manger sans se ruiner. 150 recettes. Facile et abordable. Et en plus, vous avez à chaque fois indiqué le tarif parce que l'idée c'est moins de 2 euros en majorité.
En moyenne, 2 euros en moyenne par personne.
Ouais. Par personne. Ça peut parfois aller au-dessus, mais c'est précisé.
Exactement.
Et c'est des auditions Solar. Et aussi, il y a les petits plats de Laurent Mariotte. Cette revue, depuis quand elle existe, cette revue, Laurent?
Alors, cette revue, elle existe depuis le mois de novembre. Ça, c'est le numéro 3 que vous avez qui sort demain. Donc, l'idée, c'est tous les deux mois d'explorer une région, de faire découvrir des producteurs locaux et puis de livrer, évidemment, mes recettes de saison autour des deux mois de diffusion du magazine. Je vais à la rencontre de producteurs, d'artisans. L'idée, c'est de bien manger et de comprendre ce que nous mangeons. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et se dire que c'est possible. Donc, en effet, là, vous vous baladez au Pays Basque. Je crois que c'est une région que vous aimez beaucoup.
Exactement.
Vous rencontrez des chefs, des éleveurs de brebis, des pêcheurs. C'est très, très vaste.
Un pêcheur de merlu qui a une histoire fantastique, qui était éboueur, par exemple, et qui a décidé de faire un gros crédit pour s'acheter un bateau, partir pêcher le merlu dans le golfe de Gascogne à la Palangre, qui est cette grande ligne avec des hameçons qui permettent de remonter du bar de ligne et du merlu de ligne, pardon. Et donc, il y a des très belles histoires comme ça de reconversion aussi. Ouais.
Et puis, on en apprend aussi pas mal sur Bayonne, qui est la capitale du chocolat. J'ai découvert ça.
Exactement. C'est vrai que la première fois qu'on a employé le mot chocolat en France, c'était à Bayonne, parce qu'avec les importations et puis les conquistadors, le chocolat est arrivé à Bayonne. Et je suis allé à la rencontre de deux copains qui ont monté une chocolaterie qui s'appelle Monsieur de Chocolat et qui travaille de la fève à la tablette, qui reçoivent des fèves comme ça qui viennent de plusieurs coins de la planète et qui font eux-mêmes la torréfaction et qui font des tablettes de chocolat à tomber. Ouais.
Et c'est hyper didactique et pédagogique parce qu'on peut comprendre toutes les étapes de la fabrication artisanale du chocolat, avec aussi des conseils pour déguster le chocolat.
Exactement.
Parce qu'on en parle peut-être pas suffisamment, on parle de comment on boit du vin.
Comment on mange bien du chocolat.
Comment on mange bien du chocolat et on le mange bien, notamment avec la bouche fermée.
Exactement, et à température ambiante.
On met pas au frigo le chocolat, en fait.
On peut le mettre au frigo si on veut le conserver longtemps quand ce sont des ganaches, par exemple.
Ouais.
Mais la tablette, effectivement, la bouche fermée, ça permet de développer ce qu'on appelle la palette aromatique. Mmh. Parce que vous parliez du vin, et c'est vrai que le chocolat, c'est comme le vin, on parle de cru, en fait. Entre un chocolat qui vient du Liberia, de Sao Tomé, d'Éthiopie, il y a des arômes, et puis la torréfaction va aussi, chaque torréfacteur et chaque chocolatier a sa façon de torréfier les fèves, et effectivement, on va avoir des arômes différents. Ouais.
Vous nous faites voyager, vous nous proposez des recettes, il y a beaucoup de recettes, énormément de recettes, c'est hyper généreux aussi de ce point de vue-là.
Il y a 60 recettes par magazine.
Et il y a des pas à pas aussi, parce que quand on n'est pas forcément très très doué avec ses deux mains, ce qui est peut-être un peu mon cas, c'est pas mal de voir les étapes progressivement et avec des photos pour voir à quoi ça doit ressembler.
Ouvrez le magazine.
Oui, ça va à peu près.
Mais la bouche fermée.
La bouche fermée, voilà. Absolument. Mais il y a des pas à pas, il y a un grand dossier, par exemple, il y a un pas à pas sur les pâtes à la sardine,
ouais,
ça
exactement. Alors ça, c'est pareil, c'est une recette ultra économique. Les pâtes à la sardine, on fait ça en Sicile avec des sardines fraîches, par exemple. Et moi, je me suis amusé à revisiter cette recette avec des sardines du placard, la boîte qu'on a tous dans nos placards, et faire comme en Sicile, une chapelure qu'on fait revenir avec un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de sucre. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Sicile, mais en Sicile, quoi que vous mangiez, pratiquement, on met cette chapelure qui est très croustillante et légèrement sucrée par-dessus. Et les sardines avec un petit peu de fenouil dans des pâtes avec cette chapelure, c'est à tomber. Et c'est pas cher.
C'est pas cher et ça fait peut-être un peu grossir, non?
Non, mais pourquoi vous dites ça?
Non.
Les pâtes, ça fait pas grossir, c'est la sauce qui fait grossir.
Donc on mange les pâtes toutes seules,
mais
ça
non,
va.
Mais même là, la sauce, les sardines, c'est très bon, c'est un poisson gras, c'est des oméga 3. La chapelure, on n'en met pas une tonne non plus. Et le fenouil, c'est un des légumes les moins caloriques et qui est blindé de vitamine C en plus.
Et c'est pour ça qu'il y a du succès avec Laurent Mariotte, parce que c'est simple, c'est pas cher et il peut tout expliquer.
Et puis c'est ça. Alors je sais pas si c'est dans la revue ou dans le livre, parce qu'à force je mélange, mais où vous donnez aussi des conseils de nutrition, en effet, dire qu'il faut une partie de protéines, qu'on peut trouver de différentes façons, végétales ou animales, qu'il faut des fibres.
Bien sûr.
Et vous déclinez un petit peu pour proposer aussi l'assiette idéale.
Exactement, alors ça j'en parle dans le livre aussi et dans le magazine, dans les deux, vous avez raison, parce que c'est très important et on voit voit de plus en plus de gens autour de nous qui mangent végétarien, par exemple. Je parle pas des véganes où c'est plus compliqué, pour les carences alimentaires, mais quand on est végétarien, avec les protéines végétales, on peut faire de jolies assiettes, quoi. Donc, les légumineuses, c'est quoi? C'est les pois chiches, c'est les lentilles, c'est les pois cassés, et ce sont de bons substituts pour faire de belles assiettes, par exemple.
Avec des conseils pour ne pas gaspiller. Je vais revenir peut-être un peu plus sur le livre, parce que dans Mieux manger sans se ruiner, au début du bouquin, vous dites qu'en effet, on aspire tous à mieux manger. En plus, la cuisine qui occupait déjà une place importante dans nos vies après, pendant le confinement et ce qu'on a traversé est devenue quand même une sorte de sujet national, d'une certaine façon. Le pain, la fabrication du pain. Le temps, tout d'un coup, retrouvé pour prendre le temps de savoir ce qu'on mange, parce que la notion de la temporalité, vous en parlez aussi en disant, bah, parfois on n'a pas le temps le soir, mais si on s'y prend bien, on peut éviter certains pièges.
Oui, mais vous avez raison, parce que j'entends souvent, moi je cuisine pas, j'ai pas le temps. Mais ça,
le batch cooking aussi.
Oui, alors il y a le batch cooking qui permet de faire, par exemple, préparer le week-end des menus pour la semaine et puis de déstocker comme ça dans son frigo. Ça prend du temps, hein, le batch cooking, on va pas se mentir. Ouais. C'est 3-4 heures le week-end. Ouais. Donc,
voilà. Moi, ça me prend 3-4 jours, du coup.
Oui, donc c'est du gros batch cooking. C'est ça. Et donc oui, mais le temps, c'est un faux prétexte de dire j'ai pas le temps, parce qu'en une demi-heure chaque soir, on peut faire beaucoup de choses. Ouais. Et comme je dis souvent, c'est pas la préparation qui est longue, c'est la cuisson qui peut être longue. Mais pendant que ça cuit, on fait autre chose, franchement, quoi. Donc il faut se donner ce petit rendez-vous avec soi. Et vous parliez du confinement, on était nombreux à redécouvrir les vertus du fait maison pendant le confinement. Il faut garder ce rythme. C'est comme un sport, en fait, qu'on ferait et qu'on voudrait arrêter pour des mauvaises raisons. Ben la cuisine, c'est pareil, ça se pratique au quotidien.
Et en effet, pour avoir à peu près un budget qui n'explose pas, pour mieux manger, on fait attention aux aliments qu'on choisit. Déjà, ça n'empêche pas de choisir des aliments de qualité, puisque
bien sûr,
vous parlez de la viande, des éleveurs, d'où aller acheter son poisson, notamment, faire attention. Et puis, en cuisinant, on économise.
Exact. Ah bah alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui le dit. Et il y a même eu une enquête de 60 millions de consommateurs il y a pas longtemps qui prenaient les plats préparés, qui s'amusaient à disséquer ce qu'il y avait dans un plat préparé. Vous faites la même chose. Il y a beaucoup d'eau, de gras, de sel et de sucre, effectivement. Et vous prenez la même quantité d'ingrédients quand vous le refaites à la maison, ça coûte entre 2 et 3 fois moins cher. Donc, effectivement, il faut prendre le temps de cuisiner. Et vous parliez des produits. Dans le livre, par exemple, je parle beaucoup de produits qu'on ne connaît pas forcément, mais la basse-côte, qui est une cousine de l'entrecôte, qui coûte beaucoup moins cher que l'entrecôte et qui, en termes de goût, est très proche. Le taco, qui est un cousin du merlan, qui est un poisson de pêche durable que vous allez trouver à moins de 6 euros le kilo. Donc, il y a plein de poissons comme ça vers lesquels on peut aller, qui sont bons pour la planète et qui sont bons pour le portefeuille, en plus.
Ouais. On veut tous un Laurent Mariotte dans sa cuisine. Je crois que là, c'est officiel. C'est dit.
Vous êtes gentil.
On est ravis de vous accueillir, Laurent
aussi,
Mariotte.
Je suis très content d'être là.
Attendez, je sais bien, je connais. Et après le grand soleil, il y a l'orage. Et l'orage, c'est Morgane Cadignan. Elle ne vous aime pas.
Dis donc, on est créatif cette semaine.
Ouais, c'est ça. C'est la poésie.
Laurent Mariotte, je vous aime pas.
Laurent, non, tu recommences.
C'est Morgane Cadignan.
Laurent Mariotte, je ne vous aime pas. Vous venez nous parler de votre magazine Les petits plats de Laurent Mariotte, adaptés de votre émission que vous avez déjà décliné dans un livre Mieux manger sans se ruiner. Il y en a qui ont oublié d'être cons, hein, et j'ai tendance à l'oublier à force de fréquenter cette bande originale. Alors, l'idée que vous défendez de manière générale, c'est de manger sain et de saison. Moi, j'aimerais que quelqu'un ait l'audace un jour de sortir un bouquin qui sort un peu des clous, genre aliments transformés, 150 recettes pour être sûr de manger de la merde en se ruinant.
Puis,
pardon, hein, mais pour mieux manger sans se ruiner, la solution, bah, ça reste de ne pas manger. Il y a des gens qui tentent. Moi, j'ai essayé de jeûner il y a quelques semaines. Au bout de 4h30, ça m'a saoulé. Honnêtement, pas dans le contexte actuel, le Covid, la guerre. Franchement, ta vie, elle est trop belle pour en supprimer la nourriture. Genre, pardon, hein, mais en rentrant du taf, avant d'aller se coucher, le moment cool, c'est pas regarder quotidien, c'est juste le moment où tu manges. Et apparemment, je suis pas la seule à le penser, parce que votre livre, c'est 85 000 exemplaires vendus. Votre mag, on en a plus de 200 000. Vous imaginez, si on sortait la bande originale, le mag, on pourrait, avec les cocktails les plus dangereux de Leïla. Dans le cocktail avec du gin tonic, là, c'est écrit essence, c'est essence de vanille. Non.
Voilà.
Et bien sûr, pardon, notre rubrique astuce, vomir bien, vomir comme Morin pour un jet précis, discret. Côté télé, Laurent, votre émission, on le s'appelle Les petits plats en équilibre. J'ai toujours adoré ce titre, petits plats en équilibre. Il y a que moi qui imagine une blanquette de veau funambule. J'ai souvent regardé ce programme dans lequel on peut apprendre à faire du caviar d'aubergine et ou gagner une bagnole. Parce qu'à la fin, Laurent, pour voir si les gens ils ont été attentifs pendant la recette, ils posent une question sur ce qu'ils viennent de faire. Je viens de cuisiner un risotto ou Tomasotto. Et si tu réponds bien et que t'es tiré au sort, tu peux gagner Tomasotto ou une Tesla ou une Tesla, qui est un mélange des deux. J'ai pas la fin de cette vanne. Et puis vous m'énervez parce que vous m'énervez. Moi, je m'étonne toujours des chroniqueurs culinaires qui sont fit. C'est quand même fou que vous n'ayez pas le ventre qui touche le mur d'en face. Parce que moi, si je présente une émission de bouffe, bout de 5 ans, on verra mon ventre.
C'est l'ancienne époque, ça.
Bah ouais, mais moi, si je présente ça, au bout de 5 ans, tu vois mon bide arriver 2 jours avant moi sur nos lieux de rendez-vous. Ah, elles sont moches les nouvelles Autolib. Non, c'est le cul de Morgane. Allez. Non, mais parce que moi, Laurent, quand je cuisine, j'ai ce petit pouvoir. Écoutez, ce petit pouvoir de transformer des Nutri-Score A en Nutri-Score H. Le H de huile. Parce que, question les amis, pourquoi manger du brocoli quand tu peux manger des beignets de brocoli? Mais tout est meilleur dans la friture. Les chouchous à la plage que mes parents m'achetaient en se considérant sain et healthy parce que j'avais pas le droit, tu sais, au petit pot de Nutella à côté pour tremper. Et ça, c'est horrible de faire ça aux enfants. Le chouchou nature, quoi. La gentillesse qui va pas au bout. Le kiff, mais t'enflamme pas. C'est une belle préparation pour la vie, quoi. Le gras, ça rembourre l'existence un lendemain de cuite. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, oh, j'ai envie de démonter une fondue de poireau. Non, t'as envie d'éclater un McDo avec tellement de trucs dans le sac qu'après, le sac, ça devient ta poubelle carton pour la semaine. Et en général, pour une commande de dimanche post-fête, le restaurant au téléphone, s'il me demande pas si c'est pour 9 personnes. Alors que je suis seule, je considère que j'ai pas assez mangé. C'est réconfortant, le gras, le sucre. Perso, après chaque rupture, je bois du ketchup et je vais mourir seule à 34 ans. Mais à l'autopsie, ça sentira la Sicile. Donc, ok.
Ça sent déjà.
Ok pour manger ça, en équilibre, 2 saisons, avec Tomasotto dans une Tesla. Mais s'il y a 3e guerre mondiale se confirme, promis, Laurent, met un tout petit peu d'huile.
Bravo Morgane.
Mais bravo. Et le gras, c'est la vie.
Exactement.
Et Morgane.
Le bon gras.
Et sur
Morgane
scène.
À Lille. Et là, je vais vous dire un truc, les amis. Vendredi, ce sera après-demain et samedi.
Ce week-end, ça va être beau à Lille. Je vous le dis tout de suite. On parlait de la malbouffe.
Ça sent pas la fondue de poireau.
On parlait de la malbouffe post-cuite, justement, du McDo. Dans le magazine, j'apprends que la France est le 2e territoire au monde.
Derrière les États-Unis.
À avoir le plus de McDo. On en a 1607.
Ouais, près de 1000, c'est bientôt 1700.
Plus que de mairie.
C'est un truc de dingue.
Et plus qu'en Chine.
Oui, plus que.
Non, c'est pas un habitant.
Ah oui, d'accord, oui.
Mais c'est de la folie, hein, effectivement. Et on s'est moqué, c'est vrai, de José Bové à l'époque quand il démontait le McDo. Et quand on voit le combat qu'il avait à l'époque, effectivement, pour lutter contre les OGM, contre les semences modifiées, et puis la semence, c'est la liberté. Il y a un vrai truc autour de la semence aussi. Hein.
Même ils se refait une image en mettant du vert partout. Maintenant, avant, le McDo, c'était rouge.
Pour donner
bien sûr. Non, ils sont très malins, c'est très marketé. Ouais.
Pour donner une idée, en 86, il y avait 34 McDo en France.
Ah ouais. C'est ça.
Voilà, c'est pour avoir l'évolution. C'est peut-être plus parlant de le donner comme ça.
Ouais, moi, ça me parle mieux comme ça.
Ça parle mieux comme ça. C'est pour toi, Daniel. Je fais ça pour toi. Dans les petits plats de Laurent Mariotte, ce magazine en partenariat avec Europe 1. Parce qu'il y a une photo de vous, il y a une pub sur.
Vous êtes gentil.
En grand, je le dis parce que c'est la réalité, avec une grande page consacrée aussi à la promo sur Europe.
Ouais.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir son propre magazine? On a vu récemment l'éclosion de magazines qui sont attitrés à des personnalités. alors vous incarnez déjà la cuisine aussi pour le grand public, pour vos émissions, pour en effet les bouquins que vous publiez régulièrement, la radio. Qu'est-ce que ça fait de porter sur ses épaules ça, parce que vous êtes le responsable éditorial?
Bien sûr, non, puis ça prend beaucoup de temps, parce que comme vous le voyez, je me déplace dans toutes les régions. Je vais vraiment rencontrer les gens, donc c'est pas des gens qui y vont pour moi. Non, ça fait très plaisir.
Moi, je vous plains pas trop parce que puisque vous y mangez,
allez au Pays Basque, manger chez les
producteurs. C'est dur.
Non, mais je veux dire, je me déplace vraiment. Là, je vais dans le Pas-de-Calais bientôt. Je suis allé chez moi dans les Vosges. C'est très dur.
Laurent, il faut manger un Welsh.
Oui, j'adore. J'ai fait le Welsh dans petit plat en équilibre, mais je vais faire des petits plats pas en équilibre du tout. Ça me donne des idées, votre chronique, Morgane. Mais effectivement, ce que ça fait, c'est que ça fait déjà plaisir, c'est une responsabilité, comme vous dites. C'est le prolongement de l'émission qui a 13 ans, donc c'est vrai qu'il y a une fidélité avec les gens qui refont vraiment les recettes de l'émission, c'est ça qui me fait le plaisir. J'ai encore croisé tout à l'heure un monsieur qui me dit je suis divorcé et grâce à vous je fais à manger pour mes enfants avec vos conseils, des recettes simples, je peux cuisiner au quotidien pour mes gamins, je faisais pas la cuisine avant. Donc c'est ça, la cuisine c'est du lien en fait, effectivement, et ce magazine
et
aussi
et des larmes.
Et ce magazine il permet d'aller plus loin encore et d'expliquer et de faire une sélection de produits de saison, de montrer comment on peut manger, quelles sont les alternatives, et de rencontrer des producteurs.
C'est le confinement événement qui vous a donné envie de lancer ce magazine?
Alors, l'idée était antérieure? L'idée était un petit peu antérieure, mais le livre Mieux manger sans se ruiner, c'est le confinement qui m'a donné l'idée, effectivement.
Avec des dossiers, notamment dans le magazine sur l'œuf, avec tout un tas de décodages. Si vous ne savez plus, vous oubliez ce qui est écrit sur la coquille, si ça commence par un 0, un 1, un 2, un 3, ça explique en effet comment l'œuf.
Bio, en plein air, voilà, en liberté. Ouais.
Selon l'espace qui a été réservé aux poules. Aussi, comment vérifier s'il est encore mangeable? Parce
exactement.
Que souvent, on peut s'oublier et un petit peu dans le frigo.
Bon, on le met dans un verre d'eau. Il y a plusieurs techniques. On peut le mettre dans un verre d'eau. Quand il reste au fond, c'est bien. Quand il flotte, c'est pas bien.
D'accord.
Voilà.
Et le frigo ou pas le frigo? Parce
l'enfant
que c'est ça.
Alors,
ça c'est,
une... c'est l'un ou l'autre.
Parce que quand on l'achète en supermarché ou en boutique,
il n'est pas au frigo.
Il est jamais au frais.
Donc on le garde à température ambiante. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, effectivement. Mais s'il était acheté au frigo, il faut le remettre au frigo. Il ne faut pas qu'il y ait de choc thermique. Il ne faut pas casser son habitat, en fait, à l'œuf. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est si on l'achète pas au frigo. Mais souvent, on va dire la vérité, à Paris ou dans des appartements, on n'a pas beaucoup de place. Donc, ouais, c'est bien pratique de les mettre au frigo. Mais il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas s'amuser à le sortir tout le temps du frigo. Quoi.
Et à l'issue de ce dossier, il y a toute une série de recettes. Parce que c'est aussi ça, c'est donner envie de cuisiner l'œuf différemment. Il y a l'œuf cocotte, les œufs brouillés, l'œuf orsini. Oui. Ça m'a un peu passionné.
Je l'ai fait hier soir.
Ah ouais, c'est vrai. Moi, je n'ai pas essayé parce que je me suis dit que j'allais le foirer.
Ah non, mais c'est hyper simple.
Bon, enfin bon, ça, vous savez pas d'où on part.
Hein. Ah non,
c'est quoi bouillante
avec le vinaigre. Alors, non, mais orsini, ça, c'est l'œuf poché, ça.
L'œuf orsini, comment le décrire? Voilà. Il y a une sorte de lit de, éventuellement, d'épinards.
Vous prenez des épinards, des petites pousses d'épinards, même que vous faites retomber 2 minutes, 3 minutes dans un petit peu de beurre dans une poêle avec une gousse d'ail au bout de la fourchette pour parfumer si vous voulez. Vous mettez ce petit lit d'épinards dans une cassolette. Vous avez des œufs, vous clarifiez les œufs, les blancs d'un côté, les jaunes
on
de l'autre.
On sépare.
Vous séparez, voilà, on clarifie, on sépare. Vous montez les blancs, tout simplement en neige, même au foie. Moi, j'ai fait ça hier soir, j'ai même pas mon robot. Vous faites ça au fouet. Vos blancs sont montés, un petit peu de parmesan râpé. Vous mettez une louche de ces blancs montés par-dessus les épinards. 4 minutes au four sous le grill à 210 degrés. Ça gratine, on les ressort, on met le jaune dans un petit trou qu'on a fait dans le blanc et ça repart 2 minutes au four. C'était une recette préférée du peintre Claude Monet, en fait, ces œufs orsini.
C'est très sain en plus.
C'est
d'un point de vue calorique, santé, c'est un très très bon plat, c'est sûr. Bon, après, moi, je suis pas sûr de le réussir si facilement.
Je vous jure, c'est simple.
Dans ce magazine, vous faites aussi des rencontres, vous voyagez, vous allez au Pays Basque. On va parler du Vercors aussi parce que vous avez été rencontrer d'autres chefs. Et puis, il y a des personnalités qui se livrent à vous. Par le biais de la cuisine, là, c'est Pascal Obispo qui a accepté de vous répondre et de raconter un petit peu. Et c'est assez touchant aussi son rapport à la nourriture quand il était plus jeune et quand il n'avait pas beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, maintenant, ce qui lui en reste de ces souvenirs-là d'enfant.
Exactement, il mangeait beaucoup de galettes parce qu'il a grandi en partie à Rennes après le divorce de ses parents. Et c'est vrai qu'il est devenu complètement dingue de la galette. Et il aime même faire changer les recettes de galettes quand il va dans des restaurants. Il continue tout le temps à faire des galettes, à customiser les galettes.
Il rajoute des raisins de Corinthe, c'est ça?
Alors son grand truc, c'est de mettre des raisins de Corinthe, ouais. Effectivement, pour pimper la galette, comme on dit, avec une farine de sarrasin. Il va mettre des œufs, il fait la complète, il peut mettre du saumon. Il est effectivement dingue de ça. Il a de grands souvenirs aussi d'enfance, comme nous tous. Alors lui, c'est le riz au lait de sa grand-mère,
c'est quoi,
par
vous
exemple.
C'est quoi?
Eh ben moi aussi, c'est le riz au lait de ma grand-mère, figurez-vous, avec un caramel.
De la vôtre.
De la mienne, pas de la sienne. Mais ouais, exactement. Le riz au lait, ça c'est un truc que j'ai jamais réussi à refaire. On retrouve jamais les goûts de son enfance. On peut pas refaire les mêmes recettes.
Et vous, qu'est-ce que vous faites bien en dessert? Particulièrement
que je...
bien.
Qu'est-ce
c'est
que
votre
je...
dessert signature, Laurent.
Ah, qu'est-ce qu'on vous demande?
Un gâteau moelleux à l'orange. Un truc tout simple. C'est de la farine, des œufs, du jus d'orange. Vous faites comme une texture de baba au rhum. Vous le faites cuire 45 minutes au four. Et dès qu'il sort du four, vous l'arrosez avec du jus d'orange.
Wow.
Et il est imbibé comme un baba au rhum. Mais... ouais, comme vous de temps en temps, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais.
Il y a des recettes aussi de desserts, parce qu'on parle pas mal de plats, mais que ce soit dans les livres Mieux manger sans se ruiner, ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est chapitré par mois, parce que aussi, pour ne pas manger trop cher, il faut manger de saison.
Exactement.
Et donc, il y a la liste des aliments. Alors, parfois, il y a des mois, pardon, mais c'est un peu désespérant.
Oui, bah on y est là.
On est dedans, hein.
C'est
le mois
ce qu'on
mars,
appelle la cinquième saison, c'est-à-dire qu'on sort des légumes racines de l'hiver, des courges, on n'en peut plus. Il y a encore des choux, quand même, on peut s'amuser avec les choux.
Ouais, enfin, vite fait.
Ouais, non, mais les choux de Bruxelles, par exemple, ils sont encore là, c'est bon ça, les choux de Bruxelles carbonara, c'est à tomber.
Ah ouais.
Non, vous faites la grimace parce qu'on les a cuits trop longtemps à la cantoche, les choux de Bruxelles.
Moi, j'en mange plus, ça, depuis très longtemps.
Ouais, mais essayez, cuit très très peu, al dente, à peine 10 minutes. Mais donc oui, pour ça, on va chercher des légumineuses, on va chercher des pâtes et des choses comme ça, en attendant les asperges qui arrivent, les légumes verts, les légumes feuilles. Ouais.
Mais heureusement, il y a les desserts. Et il y a le moelleux aux pommes, on est tranquille avec ça, et on peut justement adapter cette recette, vous le dites, on peut rajouter ce qu'on veut dedans finalement.
on met ce qu'on veut. On pourrait mettre des quartiers d'orange, on pourrait mettre des poires. C'est ça aussi la cuisine. Ça doit pas être figé. Autant la pâtisserie.
C'est dans le fruit quand même.
C'est... autant la pâtisserie, c'est technique, c'est précis. Mais la cuisine, et moi ce que je fais, ce sont des desserts de cuisinier. Ouais. Hein, c'est des cakes, des tartes, des gâteaux. Je vais pas me lancer dans un Saint-Honoré ou dans un opéra. Parce
non, mais vous faites aussi des barres chocolatées qu'on peut acheter dans le commerce. Alors ça, fourrées à la noix de coco pour pas donner la marque.
Exactement. Alors ça, j'aime bien prendre les gâteaux industriels et les cochonneries industrielles qu'on a tous aimé grignoter et les faire en version maison. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on peut mettre beaucoup moins de sucre et que c'est aussi bon. Ouais.
Avec toujours ce principe de l'astuce anti-gaspillage. Ouais. Quand vous proposez un certain nombre de recettes, ensuite, vous renvoyez quelques pages après en disant si vous reste éventuellement de la fleur d'oranger ou si vous reste du beurre de cacahuète qui a été utilisé dans telle et telle recette que je viens de mentionner, éventuellement avec ça, vous pouvez fabriquer autre chose.
Comme ça qu'a été créée la paella. J'avais toujours l'impression, moi, en mangeant des paella, que c'était que des restes d'un mec qui a fait, allez, on met tout, du riz, des petits pois, du chorizo, de la moule.
La paella, c'est bien. Oui, oui, non, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui cohabitent, hein. Il y a des fruits de mer, il y a du poulet, il y a du chorizo, c'est très terre-mer, la paella.
Donc, l'idée, c'est de récupérer ces ingrédients-là pour pas gaspiller, pour pas jeter.
Exactement, oui, parce que souvent, je fais acheter, on va dire, des capres ou une boîte de concentré de tomates, on va pas tout utiliser. Donc, j'explique aux gens quelle deuxième vie ils peuvent donner à ce produit qu'ils ont acheté pour une recette en particulier. Voilà, les capres, vous les avez utilisés pour faire un assaisonnement avec des pommes de terre que je mets au four. On peut les garder pour faire, par exemple, une sauce gribiche. Vous voyez, donc voilà, je donne une deuxième idée.
Autre exemple avec les verres de poireaux. Voilà, le verre dont on se sert peut-être un peu moins dans la fondue. On peut faire un bouquet garni.
Eh ben exactement, un bouquet garni. Mais alors ça, c'est le basique hein, du bouquet de poireaux. Mais on peut même les mixer et faire un pesto de verres de poireaux.
Et comme avec les fans de radis, comme avec toutes les feuilles qu'on peut récupérer.
Mais ça, c'est un héritage de nos anciens, cette cuisine anti-gaspi, rustique et paysanne. On n'a rien inventé, mais c'est vrai qu'on y revient. Et moi, j'y suis beaucoup revenu pendant le confinement, où on ne pouvait pas aller faire nos courses de nombreuses fois et très loin. Et je me souviens, avec des petits pois, leur avoir donné trois vies différentes. Avec l'écosse, eh bien, j'ai fait un velouté qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre. Alors, il faut juste, quand vous mixez l'écosse de petits pois que vous aurez cuite dans un bouillon, il faut les passer avec une passoire fine, parce que c'est très fibreux. Mais là, vous avez un velouté qui est délicieux. Et le bouillon, vous pouvez l'utiliser pour parfumer un risotto. Et les petits pois, vous les mettez dans le risotto ou dans ce que vous voulez.
Rien ne se perd avec Laurent Mariotte.
Et en plus, ça donne des idées pour
ça donne faim. On parlait de cuisine rustique, de cuisine campagnarde. Autour de cette table, on a un grand cuisinier. Et son spécialité, c'est le roulé au fromage. Enfin, il y a un truc
au jambon.
Scandale. Tout de suite, c'est Alexis Le Rossignol dans la bande originale.
Respect.
Pour être précis.
Oui.
Mais bonjour à tous.
Bonjour.
Mais hier, j'ai trouvé mon maître parce que vous faites un céleri en croûte de pain.
Ah oui.
J'ai vu, alors ça, c'est. Vous prenez un céleri, vous le mettez dans une pâte à pain et au four et ça fait un.
Mais je crois qu'il est au courant, c'est lui qui
est. En croûte de pain.
Non, mais il fait des pâtes aux miettes aussi.
Oui, exactement. Ça ressemble un petit peu à la chapelure dont je vous parlais pour les sardines tout à l'heure.
Ce qui est marrant, c'est que vous dites c'est une nouvelle manière d'envisager. Le céleri. Et c'est vrai que le céleri, son problème, c'est qu'on l'envisage pas beaucoup. Quoi. On envisage surtout les pommes de terre. Quoi.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais. Je pense que là, Alexis, il a envie de parler cuisine. En fait. Il va pas faire sa chronique.
Ouais, c'est vrai,
il adore.
Vous m'avez inspiré, quoi. Alors, j'ai quand même écrit une chronique. Hein.
C'est gentil.
Merci.
Bonjour, monsieur Mariotte. Voilà.
Monsieur.
Moi, je vais pas tarder à retourner au Mexique. Hein. C'est vrai que j'étais rentré en Europe il y a 6 ans parce que c'était chaud là-bas, à cause des kidnappings, des assassinats et des embouteillages. Mais maintenant, c'est chaud ici, quoi. Donc, je pense que je vais rouvrir ma crêperie au Mexique. Parce que j'avais une crêperie là-bas. Je dirais aux gens, j'ai pris une pause, mais ça va mieux. Voilà. C'était les tacos qui m'avaient un peu barbouillé. Mais là, je ramène une collègue de slip et une valise de Mecta. Ça devrait aller, quoi. Bon, après, je vous fais une confection. Elle marchait pas très bien, ma crêperie. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas la bonne recette.
Ah.
Il manquait un truc dans la pâte.
Ah.
Et c'est les œufs qui manquaient.
Ah, hein bah
je me disais bien, elle sèche vite, on dirait des grandes hosties. Et ça? Et ça, je l'ai compris grâce à vous, monsieur Mariotte, en tombant sur la recette de crêpes dans votre livre. Page 51, un livre de recettes avec une recette de crêpes, c'est magnifique, original. Et si ça vous dérange pas, je vais la partager avec les auditeurs. Parce que c'est vraiment une bonne recette.
Avec plaisir.
Alors, pour faire les crêpes de Laurent Mariotte, messieurs, il faut...
Ah oui.
Laurent Mariotte.
Déjà.
Faire fondre 40 grammes de beurre doux dans une casserole pour lui donner une couleur noisette.
Ah oui,
ça c'est très important. Moi, ça va plutôt donner une couleur charbon actif. Vous auriez pu préciser qu'il fallait laver la casserole. Ah, j'avais fait des lentilles, c'est pas pratique. Ensuite, mélanger 75 grammes de farine T55 et 50 grammes de farine de sarrasin.
Je vais vraiment faire ça.
Bon, moi, j'avais ni l'une ni l'autre. Et le Franprix était fermé, mais j'avais la maïzena, du coup j'ai mis ça.
Ça se trouve mais partout.
Ça a rattrapé la couleur du beurre. Il est devenu gris, quoi.
Oh là là.
Ensuite, il faut ajouter 1 ml de lait.
Ça sent le ciment. Je vais lire un truc.
1 ml de lait et 3 gros œufs. Ça, j'avais.
Ouais.
Et laisser reposer 30 minutes au frigo. Bon, moi, je laisse à l'air libre dans ces cas-là, parce que j'ai pas de chauffage. Ouais. Eh ben, elles sont pas mal, hein. Regardez, voilà. Elles sont là.
Oh non.
Elles sont très belles. Ah, pardon.
Enfin, je dis ça, c'est...
Elles sont très colorées. Sur les bords.
J'en suis content, quoi. Oui. Je les ai disposées exactement comme vous dans le bouquin.
Oui, c'est ce que je vois. Vous les avez pliées, absolument, quartier.
Exactement,
ouais,
je les ai pliées, voilà.
Donc,
alors, c'est pas très radiophonique.
Ouais, mais ça c'est très beau.
C'est généreux.
Mais on peut vraiment les manger.
Oui, bien sûr, allez-y.
On risque rien.
Non, allez-y. Elles sont fourrées à chocolat huile de palme.
Mais c'est ça, je vois qu'elles sont fourrées, je me demande s'il n'y a pas une escroquerie, non?
Non, allez-y. Okay. Voilà, donc il y a une suite quand même à la chronique.
Hein. Oui.
Comme l'a dit Morgane, heureusement qu'il nous reste la bouffe pour nous réconforter quand même. En ce moment, je bouffe grave. Oh là là, ça doit être un réflexe de mon subconscient qui m'incite à faire des réserves. Parce que vu les événements et le dernier rapport du GIEC, la suite logique c'est quoi? Ben c'est une famine en fait, mais c'est très sérieux, on en est là quoi. Et je suis inquiet pour les barbecues cet été aussi, parce qu'avec l'augmentation du prix des hydrocarbures, le gaz va coûter plus cher que les saucisses quoi. Allez, pas cuite, mes chipons. Eh ben ça coûte trop cher, c'est saucisses bien cuites ou nouveau cartable, tu choisis. Non, et c'est pas facile avec ce qui se passe en ce moment. Avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment l'expression de la décennie. Hein. Et on en est qu'à la deuxième année de la décennie.
Ça va être long. Hein.
Il y a 100 ans, la décennie des années 20, on l'a baptisée les années folles, synonyme d'un bouillonnement et d'une effervescence, selon la définition du Larousse. Bon, ben dans 100 ans, s'il y a toujours des humains sur Terre, je pense que les années 2020, on les appellera plutôt les années pas faux-folles. Hein. synonyme de merde, en fait. Hein.
Dépose-le.
Voilà, malheureusement. Il y a une question qui revient toujours dans l'humour, c'est peut-on rire de tout? Moi, je pense que la vraie question, c'est surtout, a-t-on encore envie de rire de tout, quoi? Alors, il y a quand même quelques drôleries, par exemple, hein, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais des militaires russes ont révélé leur position à cause de Tinder. Vous avez su ça? Il y a des militaires qui sont en guerre et qui se disent, il y a peut-être moyen de matcher avec des Ukrainiennes. Allez, elles sont bien les Ukrainiennes, essayons. Faut les imaginer dans le char, discrètement à mater des profils de nana. Svetlana, sympa. Irina, c'est bon ça, vas-y, like. Il y a des génies quand même. Hein. Et faut vraiment être un mec pour croire que des femmes que tu menaces peuvent quand même te tomber dans les bras, quoi. Et je sais pas quel statut ils ont pu mettre, parce que sur Tinder, faut mettre un statut.
Ah, d'accord.
Pour décrire un peu pourquoi t'es là. De passage pour le boulot, pour quelques jours ou quelques mois, on sait pas, ça dépend. En même temps, cette anecdote, elle est rassurante d'une certaine manière, parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit que les soldats russes, au fond, derrière leurs armes et leurs canons, ben, c'est des gamins de 20 ans qui cherchent l'amour, et qui finiront peut-être par dire, stop, on veut plus faire ça, quoi. Voilà. Alors, bonne dégustation, messieurs.
Merci, Alexis. Alors, verdict, Laurent Mariotte.
Eh ben, je l'ai terminé. Bravo, pour la crêpe avec la petite garniture chocolatée. Je vous félicite. C'était très bon.
Merci, c'est une recette, hein.
Bravo.
Alors, je sais pas ce qu'il y aura comme recette ce soir, mais en tout cas, Alexis sera au théâtre La République à 20h15.
Oui, tout à fait.
Merci Alexis.
Avec des crêpes.
Il n'avait pas la bouche pleine. En tout cas, toute l'équipe a pu en manger. Voilà,
Très bonne, bravo.
La première cuisine, recette d'Alexis, inspirée de Laurent Mariotte. Mieux manger sans se ruiner. 150 recettes faciles et abordables aux éditions Solar. Avec, à la fin aussi, donc, on a parlé des mois qui viennent chapitrer ainsi le bouquin. Avec des intemporels aussi.
Oui.
Qu'on peut faire quand on n'a pas d'idée parfois.
Le gratin dauphinois, ça c'est 4 saisons, ça c'est le 4-4 de la garniture, on peut le faire en toute saison. Donc effectivement, il y a la mousse au chocolat, il y a le poulet rôti, il y a vraiment des recettes, la crème brûlée, le poulet rôti le dimanche, voilà, ça c'est un grand classique.
Toutes ces recettes, vous les avez expérimentées vous-même, vous les avez, j'imagine, vous avez essayé de les améliorer, comment vous travaillez pour confectionner ces recettes-là?
On en parlait tout à l'heure, j'ai une petite équipe avec laquelle je pars à chaque fois des produits de saison, on écrit les recettes, on les teste une deuxième fois avant le tournage de l'émission, et pendant le tournage, je fais encore des modifications. Parce que l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de simple, d'original, en même temps, avec des goûts qui plaisent aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que je fais beaucoup moins de viande qu'au début de l'émission, par exemple. Je fais beaucoup plus de choses végétariennes. Bah, parce que mes goûts ont changé aussi à moi. Et puis, parce que je veux suivre le portefeuille des gens, je veux les aider à trouver des alternatives à la viande, puisque ça fait des années que je dis... Il faut manger moins de viande, mais de meilleure qualité. C'est vrai, ça. Il faut arrêter d'acheter... On en parlait encore la semaine dernière. En France, on fait 95% de cochons industriels. Vous vous rendez compte? 90%. Il y a 5% sur paille. Bon, c'est pas guère mieux. Et 5% vraiment en plein air. C'est un truc de dingue. Donc, effectivement, il faut sortir de cet élevage intensif pour reconstituer une agriculture paysanne et pouvoir manger de la viande de meilleure qualité, qui sera un peu plus chère, ça, on est d'accord. Mais on en mangera moins souvent. Donc, il y a des substituts aussi pour la remplacer.
Il faut accepter de manger du jambon rose aussi.
Oui, absolument. Le jambon, il n'est pas rose normalement. Ouais. Il vire même sur le gris. Vous voyez, les nitrites, on le sait, c'est très mauvais pour la santé. Mais vous voyez, quand Élise Lucet a fait ce reportage dans Cache Investigation, par exemple, eh bien, l'industrie agroalimentaire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé la recette du jambon. Vous voyez, donc on a un pouvoir aussi en tant que consommateur. Faut pas l'oublier.
On parle d'actualité justement. Il y a aussi dans le magazine une page consacrée à Patrick Peloux, médecin urgentiste, parce que c'est aussi de l'actualité quelque part. La nourriture, l'alimentation, c'est au quotidien. Et il prône une forme de droit à bien manger, qu'on soit à l'hôpital ou qu'on soit en EHPAD. Parce que finalement, être malade et mal manger, c'est quand même une double peine.
C'est la double peine, c'est ce qu'il dit. Et Patrick, mais tous les deux mois maintenant dans le magazine, il pousse un coup de gueule où il parle de ce qu'il aime autour de l'alimentation. Il propose même une recette comme ça qu'il a envie de partager. Et effectivement, là, il parle de la nourriture à l'hôpital. Et ça, j'ai pu le vérifier. Je pense qu'on peut tous le vérifier. Qu'est-ce qu'on apporte aux gens qu'on aime à l'hôpital aujourd'hui? C'est plus des fleurs, ça, à manger. Donc, c'est quand même terrible, ça. Donc, on est d'accord qu'il y a des problèmes de régime alimentaire en fonction des maladies qu'on a à l'hôpital. Mais c'est insupportable de manger mal à l'hôpital. Et les EHPAD, j'ai encore vu hier soir sur les EHPAD, c'est un scandale. Comment voulez-vous
qu'on mange bien avec
4,35 € pour la journée, le petit-déj, la collation, le déjeuner et le dîner?
Forcément,
c'est un scandale. Et ces mecs font des bénéfices de dingue et ils sont pas capables de... Ils engueulent un mec parce qu'il donne du fromage à ses patients. Mais c'est surréaliste, ça. C'est surréaliste.
Mais c'est valable aussi pour les cantines scolaires et pour tout ça.
Oui, absolument. Les cantines scolaires, les hôpitaux. Alors, les cantines scolaires bougent beaucoup.
Ça s'améliore énormément.
Il y a une association qui s'appelle 1 plus Bio qui travaille beaucoup avec les cantines scolaires. Et beaucoup de cantines scolaires ont leur propre potager maintenant et ont remis des cuisiniers dans les cantines, ont arrêté de donner les cantines à des boîtes qui sont là que pour le rendement, quoi.
Et tout à l'heure, Nathalie Georges, qui figure aussi dans le magazine, viendra nous rejoindre. On va parler de la cuisine du 6e étage. Je vous en dis pas plus. On va se plonger dans les années de votre vie, Laurent Mariotte. On commence dans les années 70. Vous écoutiez? Pourquoi avoir choisi Annie Cordy, Laurent, pour illustrer votre enfance?
Parce que il est poli d'être gay, c'est la joie de vivre, c'est le sourire, quoi qu'il en soit. Je la connaissais un peu, en plus j'ai eu la chance de la connaître ces dernières années. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et quand j'étais gamin, on me raconte, je m'en souviens plus, mais que j'étais sur la table de la salle à manger, que je chantais et que je dansais la bonne du curé quand j'avais 4-5 ans. Voilà, donc voilà.
Vous avez grandi dans une ferme.
Ouais.
Vous êtes fils et petit-fils de paysans.
Ah ouais, 5 générations.
5 générations, il faisait quoi?
Alors, mon père, que j'ai perdu jeune, faisait de la polyculture et de l'élevage. Et mes grands-parents avaient une petite ferme paysanne. Pareil, du lait surtout et puis de l'élevage, ouais.
Vous étiez dans les Vosges?
Oui, absolument.
Les Vosges.
On a un accent circonflexe sur tous les hauts dans les Vosges.
Et c'est de là-bas que vous avez aussi peut-être pris conscience que la saisonnalité, c'était important, le respect aussi de la terre.
Mais je vais vous dire la vérité, pour moi, c'était naturel, en fait. J'ai grandi avec le rythme des saisons et dans le village dans lequel j'étais élevé par mes grands-parents, il y avait 3 potagers et je passais mon temps dans les potagers avec mes grands-parents. On vivait pratiquement en autosuffisance et en autarcie alimentaire, si vous voulez. Donc, il y avait le poulailler, il y avait le lait, donc il y avait le boucher qui passait deux fois par semaine et le poissonnier le vendredi. Et c'est tout. Et le reste, on était vraiment sur les conserves, les confitures, les bocaux. Enfin, voilà,
Et le riz au lait de mamie, bien entendu. Voilà, sans oublier le pain perdu. Je crois qu'il y a un petit...
Le pain perdu, c'est top, ça. Et les fraises écrasées du potager avec de la crème et du sucre, ça, voilà, en rentrant de l'école.
Aïe. On passe à l'année 87, Laurent.
Status quo, ouais.
Ouais, pourquoi cette musique pour illustrer votre arrivée à Paris?
Ouais, j'arrive à Paris juste à cette époque-là, effectivement. J'écoute ça beaucoup dans ma R5 parce que je suis venu avec ma R5 et mon frigo à Paris. Ça me permettait de pas acheter de frigo. Donc,
Il rentrait dans l'R5.
C'était un enfer. Et c'était le frigo du mariage de mes parents qui était un truc énorme avec les frigos avec un bloc qui pèse une tonne. Et la R5, je dis pas
en comment. En roue arrière.
Et il est rentré parce que j'avais mis tous les sièges arrière en couchette. Mais effectivement, il est rentré et j'écoutais beaucoup ça à l'époque.
Et quand vous débarquez à Paris, vous inscrivez dans une école de radio.
Oui.
Studio École de France.
Exactement.
Et c'est là que vous rencontrez l'animateur Jacques Martin.
Eh bah ben oui, parce que je le regardais depuis chez moi dans les Vosges quand j'étais gamin et il disait tout le temps, je l'ai rencontré, il venait de province, je l'ai aidé. Donc je me dis, je vais aller voir ce gars-là puisqu'il aide des gens qui viennent de province. Et donc je suis allé le voir au bout d'une semaine et il m'a embauché comme stagiaire à Dimanche Martin. Il a tenu parole et effectivement, c'est un... Pour moi, une classe. Très très grande rencontre. Et quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, que vous avez 18 berges, ça vous donne des ailes, quoi. Ouais. Voilà.
Donc, il était hyper puissant, en plus.
Hyper puissant. Ah bah oui, il avait tout le dimanche, sur France 2, quoi. Donc,
vous rencontrez aussi lui et Dieu, quoi.
Ouais, un peu.
Vous rencontrez aussi l'animateur Fabrice.
Oui, absolument. J'ai bossé avec
lui. Patrice Laffont.
Oui, aussi. J'étais assistant de Patrice Laffont sur Dessiner, c'est gagné.
Qu'est-ce que vous avez appris au contact de ces grandes figures de l'animation française, quand même?
Oui, exactement. Et ben, Fabrice, je suis toujours ami avec lui, d'ailleurs. Patrice Laffont, je l'ai revu aussi il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est-à-dire que alors ils m'ont appris vraiment à me cultiver. Pardon, à m'intéresser à tout, en fait. C'est ça, c'est pour être animateur, faut pas regarder que son petit nombril, quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est s'intéresser à tout et pouvoir parler des choses de façon décontractée, en fait. C'est ça que j'ai appris, je pense, avec eux, ouais.
On passe à l'année 91 et vous écoutiez Laurent Mariotte.
Ah bah oui.
Un peu de Patrick.
Ouais, parce que c'est vrai que cette chanson, je l'aime bien, parce que pareil, elle a un côté, elle donne des ailes, quoi. Tout est possible, tout est devant, les copains, on se projette, de quoi on a envie, donc il y a ce côté effectivement très enthousiaste et positif, ouais.
Et on vous retrouve à l'antenne dans ces années-là, pour la chaîne de télévision La 5, avec l'émission Youpi, l'école est finie.
Ah ouais, alors ça a duré 2 mois.
Ouais, mais alors quand même, racontez-nous.
Alors, je faisais des sketchs entre les dessins animés. J'en suis pas très fier.
Pourquoi?
Parce qu'on avait des personnages, j'avais une espèce de crête sur la tête, enfin c'était surréaliste. Ouais, et j'avais déjà fait un petit peu de télévision pour Canal J, qui était une chaîne sérieuse et intelligente pour enfants. Et
la avec l'émission
Cajou. Voilà. Et alors Cajou, je l'ai fait après justement, mais à l'époque, au début sur Canal J, je faisais genre bouillon de culture pour les enfants.
Ah, super.
Avec des gamins qui venaient débattre de leurs livres préférés.
Super.
Et après, il y a eu un changement d'actionnariat à Canal J, donc ils ont changé. Donc je suis parti sur La 5. Et la directrice des programmes de Canal J m'a appelé en me disant: je ne peux pas te laisser faire ça comme ça avec tes personnages. Reviens à Canal J, Steve Baron, que je salue.
Et pourquoi les enfants? Vous aviez, envie de travailler avec eux? Non, Daniel, dis pas ça.
Mais attention, les horreurs.
Non, je t'ai vu, t'as fait dire une horreur.
T'as vu la facilité.
Attention, les horreurs, monsieur Morin.
La facilité.
Pourquoi les enfants? Parce que quand je vous vois maintenant dans la cuisine, on se dit que ça a toujours été votre endroit, votre place.
Exactement, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on m'a proposé à l'époque et j'aimais bien parce que je faisais du direct et que j'avais commencé à faire de la radio dans les Vosges, dans une radio montée par Philippe Seguin, et que j'adorais le direct et que sur Canal J, je faisais 2 heures de direct tous les jours, qui était une sorte de nulle part ailleurs pour enfants, en fait.
On passe à l'année 2005.
Ah oui. Mon CAP cuisinier.
Eh oui, vous en parlez dans le livre, oui. Quand vous donnez des astuces.
Exactement.
CAP de cuisine à l'école Ferrandi.
Exactement.
À Paris, grande école.
Ouais, la grande école, école supérieure de gastronomie française, comme on dit. C'est un des plus grands moments de ma vie, quoi. J'avais 35 ans, c'était le fantasme de la quarantaine. J'étais sur TF1 à l'époque pourtant. Et je commençais à tourner en rond, à lire des prompteurs, à faire des choses qui m'intéressaient pas vraiment. Et je dis, bon, bah, j'arrête.
Vous faisiez quoi à TF1 à ce moment-là?
J'ai animé longtemps Les Coups d'humour, qui était une émission de découverte d'humoriste. Et je faisais Ça vaut le détour, qui était une émission où je présentais des poursuites de bagnoles aux États-Unis, des choses comme ça.
Ah oui,
c'est vrai. Voilà. Donc, et là, je commençais un petit peu à tourner en rond, pour tout vous dire.
Et vous prenez quoi? Un congé sabbatique? Vous arrêtez tout?
Je pars.
Comment vous financez? Comment vous débrouillez?
L'AFDAS,
formation
pour les intermittents du spectacle, qui m'a aidé à financer
la
formation, pas tout mais une partie.
Ouais.
J'avais mis un petit peu d'argent de côté et j'étais dans le fantasme même d'ouvrir un restaurant avec des copains, en fait. Je passais mon CAP de cuisinier, je pensais pas du tout refaire de la télévision derrière.
Combien
en fait.
De temps le CAP de cuisinier?
6 mois et demi, mais en intensif.
En intensif.
Ah, ouais. Ah oui, le matin à 8h, on vide le cul des poulets, après on fait un menu.
Avec l'orientalisation.
C'est CAP cuisine. C'est CAP cuisine. Quoi.
S'il vous plaît.
On dit bonjour avant d'habitude.
Ouais, on dit bonjour, exactement, on se présente, on fait un menu entrée, plat, dessert, et on a des cours technologiques, on a des cours aussi d'hygiène alimentaire, donc c'est très 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 varié. Ouais.
Et quelle belle idée, puisqu'en 2008, ça vous mène à ça.
Ah, j'en peux plus.
Eh ben, petit plan d'équilibre depuis 2008, effectivement.
Et pourquoi Michael?
Alors, pourquoi Michael? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est un petit peu long.
C'est-à-dire non, j'ai pas appelé Laurent Michael, j'ai dit pourquoi Michael Jackson? Il s'appelle toujours Laurent, pas ça.
Toujours Laurent Marriott.
Michael Marriott, c'est un peu stylé.
Je suis désolé Laurent, je crois qu'elle est ivre.
Et pour une carrière à Hollywood, Michael Marriott, c'est pas mal,
ouais, ça peut le faire, effectivement.
Laurent Jackson.
Pardon.
Ça peut créer la confusion avec les hôtels Marriott aussi, ouais, vous avez raison.
Allez-y.
Donc pourquoi? Parce qu'en 2008, je fais petit plan d'équilibre, effectivement, et j'ai pas de voiture, et je suis camarade avec Denis Brognard qui vendait sa voiture, qui était une petite Toyota, donc je lui ai racheté sa voiture, qui était une IQ, et dans la voiture, il avait oublié des CD, dont celui de Michael Jackson, donc voilà, j'écoute dans cette voiture du Michael Jackson.
Ah, vous lui avez même pas rendu, vous lui avez
rendu sur sa voiture, d'accord. C'est vrai,
c'est vendu
avec. Il va la prendre maintenant.
C'est vendu avec.
Ouais, c'est vendu avec.
On va se tourner vers Nathalie Georges qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Figurez dans le magazine Les Petits Plats de Laurent Marriott avec un article La cuisine du sixième étage. Il a la chance aussi de vous avoir dans ce magazine puisque on va parler ensemble de votre parcours dans le magazine. En fait, pour vous présenter, vous êtes l'auteur de La cuisine du sixième étage, du piano au réchaud aux éditions Hérodios.
Oui.
Vous êtes cuisinière, vous préparez une cuisine simple et gourmande dans votre chambre de bonne à Paris, qui est destinée à être partagée avec ceux qui sont là autour de vous. C'est une façon aussi de montrer que la cuisine peut se faire avec pas grand-chose.
Tout à fait, mais ça c'est très important. Et d'ailleurs, nous avons des credos en commun avec Laurent Marriott, ce qui sont qu'on ne gaspille pas, on ne jette pas, et on peut très bien manger avec peu.
Quel est votre parcours, Nathalie Georges, justement?
Oh, mon parcours. Enfin, écoutez, on va essayer d'être bref.
Ça sent la délinquance.
Oui, un peu. Sous le chignon, comme me disent certains amis, sous le chignon, il y en a. Parce que...
J'ai tout de suite vu, moi.
Voilà, la carrosserie est en état, mais bon. Alors, enfin, on la maintient. On la maintient en état. On essaye. De plus en plus compliqué. Mais bon.
Oh, je sais.
Alors, le parcours.
Si on parle du parcours, je suis trop lente. Le parcours, il y a quatre étapes. Il y a la première, Gilberte, au début. De 2 à 8 ans, à peu près, on fait à la louche. Donc, très importante parce que c'est le socle. C'est l'éducation bourgeoise.
Alors, qui est Gilberte?
Ma grand-mère, oui.
Parce que tu
ma grand-mère, maternelle.
Oui, je me suis dit, elle a changé de prénom, j'étais Gilberte.
Voilà, donc maison bourgeoise plutôt ronflante, mais on avait fait deux guerres mondiales, donc on jette pas, on gaspille pas et on mange de tout. Ouais. On mange, y compris des choux de Bruxelles, je ne sais pas.
Oui, bah, j'aimerais bien que vous m'en cuisiniez.
Voilà. Hein, on va y arriver, ça va être notre défi, Nathalie.
Réconciliez-moi avec ça,
il y a
le céleri rémoulade.
Bref, il y a du boulot,
donc,
mais on va y arriver.
Très important, parce que c'est là qu'on apprend les gestes qui ne s'oublient pas, qui ne s'improvisent pas et qui vous forment le palais. Donc ça, c'est très, très important. D'où l'importance dans les écoles. On peut pas se lancer là-dedans, ça serait trop long, mais je comprends pas dans l'éducation. D'ailleurs, dans les écoles, maintenant, je considère qu'il devrait y avoir des cours.
Bien
puisqu'on
sûr.
A supprimé l'éducation civique, on devrait apprendre, et que les hommes doivent faire comme les femmes, on devrait apprendre les légumes, les poissons, les machins. Non, mais je suis très sérieuse.
Non, mais c'est
ça.
Ce qu'on faisait un petit peu à une certaine époque en EMT. Enfin,
exactement.
Moi, quand j'étais au collège, j'avais des cours d'EMT où on apprenait à faire du muesli ou des trucs comme ça.
C'est ça.
Mais ça
n'allait pas plus loin que ça.
Ça n'allait pas très loin sur les aliments, leurs valeurs nutritionnelles.
Mais en cours de la vie quotidienne, quoi.
En Norvège, en Suède, on apprend à l'école la nourriture et l'alimentation et la cuisine pour les enfants dès l'âge de 5-6 ans.
Non, mais il faudrait, c'est l'indispensable.
Évidemment. Alors Nathalie, votre parcours.
Alors ensuite, oui, parce que j'ai du mal. Hein,
ben oui.
Alors, étape numéro 2, le pensionnat.
Ah.
De 8 à 17 à peu près.
D'accord.
Donc 10 années qui ne vous habituent pas à mal manger, parce que c'était absolument imbouffable ce qu'on nous donnait, et je ne comprenais pas bien pourquoi. On avait, d'ailleurs j'en parle un peu, le bouillon de vaisselle où il y a quatre machins qui flottent. Enfin bon, on faisait des trocs, tu manges mon truc, je te mange ci, enfin vous voyez, voilà. Et puis ça apprend la discipline et la vie en communauté.
Bien sûr.
Très bien. Troisième étape, la vie active, dans laquelle je suis rentrée très tôt. Parce que toujours Gilberte derrière, c'est pas parce que
grand-mère.
On a quelques moyens qu'on ne fait rien. Non, le boulot c'était la chose numéro un. Les vacances, ça n'existait pas, c'était éventuellement...
On s'égare un peu Nathalie, alors on continue.
On s'égare.
Oui, on s'égare un peu.
Donc ensuite, on rentre dans la vie active.
Oui.
Et dans la vie active, on est un peu téméraire. Et donc, on est un peu comme une grosse éponge, tout ça. On a hérité, sans le savoir, des parents qui sont des artistes, un certain goût et de voilà pour la créa. Ouais. Et très vite, on se met à son compte et on a une vérification de comptabilité. Vérification de comptabilité qui est pas sur des choses mal écrites, non, pas du tout.
Mais Nathalie, parlez-moi de la cuisine.
Parce que moi,
quand même un petit peu. Vous avez un revers de fortune. Voilà, vous avez un revers de fortune qui fait que vous vous retrouvez au sixième étage.
Dans une chambre de bonne, voilà.
Et là, premier braquage.
Donc, j'arrive au sixième. Donc au sixième, pas question de se laisser abattre,
ouais.
Parce que ça fait partie de, enfin, je veux dire, de l'ADN.
C'est ça.
Donc je me suis aperçue très vite que la cuisine était un élément essentiel.
Et quand on s'est adapté au piano, quand on a cuisiné régulièrement sur du piano, il faut le faire sur un réchaud. Donc là, il faut quand même trouver
des
astuces.
C'est pas très compliqué en réalité, d'accord. Beaucoup moins que ce que l'on peut penser, parce que un, c'est un défi, donc c'est toujours sympathique. Deux, c'est créatif, parce que forcément, on cuisine autrement.
Mm-hmm.
Et on utilise ses bases. Parce que les bases de la grand-mère, je veux dire, comment faire revenir blanchir ses oignons, comment saisir une viande, comment ça, je veux dire, ça change pas. Que vous ayez un plat très compliqué ou un plat simple, c'est la même chose.
Et elle est dans la transmission en plus, Nathalie, parce que moi je suis allé dans sa chambre de bonne, elle fait la meilleure salade de pommes de terre, et oui, nous avons une belle salade de pommes de terre échalotée ensemble, effectivement, et elle engueule les jeunes étudiants qui sont là, qui reviennent avec leur sachet de salade en leur disant « mais achète ta salade, ça te coûtera moins cher et tu pourras la conserver ». Donc il y a une vraie transmission et il y a une vraie connexion comme ça, effectivement, c'est une cuisine de bon sens, effectivement, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit dans le magazine. Bon,
c'est quoi vos recettes du moment, Nathalie ?
Eh bien, les endives au jambon.
Oui.
D'accord, parce que les endives, on fait la gueule aussi, et ben c'est délicieux les endives.
C'est très bon,
on les braise.
Ah oui, non, on les braise, mais il faut surtout après bien les égoutter. Ça, c'est la clé.
Et il y a quelque chose de bon ou pas?
Autre plat du moment que vous aimez cuisiner.
Toutes ces omelettes.
Ouais.
Ah, parce super. Que l'omelette, c'est tout ce qui reste dans le réfrigérateur au départ. Enfin, je veux dire, faut voir ce qu'il y a. On peut faire du jambon, on peut mettre du poisson fumé, on peut mettre des œufs. Oui, il faut mettre des œufs, mais on fait attention à ce qu'on achète.
Oui. Hein?
Compris. On achète pas n'importe quoi.
De poules, de préférence.
On des choux de Bruxelles, hein.
D'accord.
Et pourtant, au pensionnat, ils étaient particulièrement mauvais, je peux vous le dire. Mais enfin, on apprend aussi à évoluer un peu. Mm-hmm. Avec difficulté, quelquefois, quand on est un peu têtu, mais on y arrive.
Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec l'installation que vous avez à la maison? Parce que souvent, on se rend compte que cuisiner, ça peut prendre un peu de place, qu'il faut pouvoir lancer plusieurs plats en même temps, plusieurs feux.
Oui, alors, il y a des plats un peu compliqués. Même le risotto, par exemple, c'est un peu compliqué.
Pourquoi?
Parce qu'il faut que vous ayez au moins deux feux. Un feu pour tourner le bouillon.
Voilà. Ouais.
Et si vous n'avez pas de feu, vous êtes très, très embêté.
Vous avez fait donc ce livre qui a remporté un franc succès. Oui, faites pas la modeste, vraiment.
Non, mais un succès, mais tant mieux parce que le message est passé.
La cuisine du sixième étage.
On peut bien manger avec peu. Et la cuisine est à la portée de tout le monde. Et quel que soit son âge, quel que soit son milieu social, quel que soit ses moyens techniques et quel que soit ses moyens financiers, on peut bien manger.
Et puis vous recevez du monde, je crois que les voisins en profitent.
Ben évidemment, ils ont raison. Non mais ils ont raison d'en profiter.
Vous ne donnez pas l'adresse dans le livre ?
Non, c'est rue Léonce Reynaud, mais elle n'est pas grande, hein, donc vous pouvez trouver facilement.
C'est aux éditions Hérodios. Et puis dans le magazine aussi, on parle aussi un peu d'innovation avec cette fameuse carta fata. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, Nathalie ?
Mais la carta fata, c'est formidable, parce que c'est un papier qui va au four. Moi, c'est grâce à...
Pour faire des papillotes.
À Yannick Aleno que j'ai connu la carta fata. C'est comme un papier transparent, comme un papier cellophane, mais en réalité, c'est très joli parce qu'il est transparent, donc vous voyez votre poisson. Il n'est pas chaud quand il sort du four, me demandez pas pourquoi. Mais quand il sort du four, le poisson est en train...
On ne se brûle pas comme avec du papier d'aluminium ou du papier sulfure.
On le trouve facilement, ce carta fata?
Oui, on le trouve en grande distribution maintenant.
Oui, en grande distribution.
Et comment vous avez rencontré Yannick Aleno, qui est un grand chef étoilé?
Ah ça, chez je l'ai rencontré grâce à un de mes amis de longue date, Jean Solanet, qui est un vieil ami.
On pourrait passer des plombs avec Nathalie.
Oui, voilà. Un documentaire sur Nathalie.
Non, mais écoutez, je suis désolée, mais j'ai pas l'impression d'être longue. En plus.
Ah, mais non, il faut non, lui donner. C'est parfait.
Laurent Mariotte, faut lui donner une rubrique, à chaque magazine. À nouveau, dans chaque magazine.
Non, faut lui donner de l'argent maintenant.
Je pensais pas qu'elle était déjà
là. Dans chaque magazine depuis le numéro 1.
Depuis le numéro 1.
Mais non,
pardon, moi j'ai eu ce numéro.
En même temps, il y en a eu 3.
Non, j'ai beaucoup de chance. J'ai énormément de chance parce que Laurent Mariotte a été une des premières personnes à m'inviter. invité. Quand il a vu que je pouvais aligner deux mots et qu'au contraire, il fallait plutôt m'arrêter que l'inverse, que de me tirer les vers du nez, et que nous avions un credo commun, oui. Comme je l'ai dit au début, et que il est venu au sixième... Et il m'a voilà. offert ces deux pages et sac. Je lui
pas le dernier pour aller au
eh bien,
sixième,
Nathalie Georges, merci. Je rappelle la cuisine du sixième étage du piano au réchaud aux éditions Hérodios. Tanguy Pastureau, bonjour. De quoi
bonjour.
Allons-nous parler?
Je vais vous parler de Miss Monde. C'est dans deux semaines. Et hier april, notre candidate la plus belle, hein, les autres sont affreuses. Eh bien, elle était en interview.
L'équipe de choc de la bande originale avec Morgane Cadignan, salut. Avec Alexandre Rossignol, avec Jérémy Crédit,
salut Alexandre.
Tanguy Pastureau nous a rejoint bien sûr, Daniel salut. Morin salut. Et salut. Notre bonjour, invité, Laurent Mariotte. Wouhou.
Jackson.
Alexis, là, aussi.
Alexis, pardon. C'est son frère qui est venu. Mille excuses entre Alexandre, Alexandre Alexis, Lepinçon. Alexandra Duboucheron, pardon. Excuse-moi.
Mais ça ne me
j'espère
dérange
que
pas.
Tu as accepté mes Léa. Excuses. Léa. Voilà. Les petits plats de Laurent Mariotte. Le magazine, c'est le troisième opus tous les deux mois. Avec
exactement.
Plus de 60 recettes. 60 recettes.
Oui, dans, 60 recettes de saison, forcément. Ouais.
De saison, parce qu'on ne rigole pas avec ça.
Ah
et
non.
Puis, en effet, mieux manger sans se ruiner aux éditions Solar. 150 recettes cette fois-ci, faciles et abordables. Avec une idée, c'est que le plat ne doit pas dépasser.
2 euros en moyenne par personne, effectivement. Ouais. Vous voyez, j'ai des œufs maillots, on est à 80 centimes par personne. On va faire, par exemple, une échine
un
de cochon.
J'ai des œufs maillots, 80 centimes, les gars, profitez-en.
80 centimes par personne.
Alors, pas toute la semaine.
J'ai une échine de cochon à 3,50 euros. Prends-en, c'est de la bonne.
Je prends tout ton stock.
Avec des astuces anti-gaspillage, avec aussi l'idée de limiter les emballages quand on achète. Et donc, il y a ce dossier dans le magazine sur la salade. Je fais partie de celles qui achètent la salade déjà préparée.
Je sais. Vous aimez le chlore, c'est pour ça peut-être.
Et, en fait, voilà. Et donc je découvre qu'en effet, c'est une salade qui est rincée au chlore.
C'est vrai. Bien sûr, ouais. Il y a plein de chlore, effectivement. C'est le côté hygiéniste de l'alimentation sous vide, effectivement. Quand vous achetez des cerises en hiver, ce qui est une hérésie déjà totalement qui viennent du Chili, elles traversent par des containers dans des bains de chlore pour supporter la conservation. Vous imaginez le truc un petit peu.
Ah, c'est pour ça qu'elles ont goût de piscine.
Donc, voilà. La salade en sachet, c'est plus cher, ça pollue et en plus c'est pas forcément bon pour la santé. Bah, mais vous êtes sympa, vous dites quand même, et ça peut arriver qu'on achète un sachet de temps en temps. Voilà. Moi j'ai aimé le côté, on me déculpabilise parce que j'en ai marre d'être, d'être nul.
Moi je suis pas là pour culpabiliser, effectivement, mais j'explique. Je pense qu'on achète mieux, on cuisine mieux, on fait mieux ses courses quand on sait à quoi s'en tenir en fait. Et effectivement, il y a un jour, et ben voilà, on n'a pas le temps, on a la flemme, on n'a pas envie d'acheter une salade fraîche et on achète une salade en plastique, j'allais dire, mais sous vide. Très bien. Pourquoi pas. Mais c'est bien de savoir que la laitue que vous allez acheter fraîche, elle a beaucoup plus de goût, elle va vous coûter moins cher, vous l'essorez, vous la gardez 4 jours comme ça dans l'essoreuse, dans un tupperware au frigo, il y a zéro problème, quoi.
Et puis aussi, on peut jardiner. On peut faire du jardin au balcon.
Exactement, il y a une double page jardinage.
Qu'est-ce qu'on peut cultiver en ce moment?
On peut déjà commencer à mettre des petites tomates cerises, par exemple. Tout ce qui est herbe aromatique, le cerfeuil, le basilic, l'estragon, vous mettez ça dans votre jardinière, sur votre balcon ou votre terrasse, ça se plaît très bien.
Vous avez un grand jardin, vous?
Ou à Paris, non?
Dans les
Vosges, j'ai un potager. Ouais. Voilà, vous parliez de mes grands-parents tout à l'heure. J'ai repris la ferme de mes grands-parents. J'y étais encore ce week-end. Effectivement, alors là, le potager, il est en jachère puisqu'on va seulement se remettre à planter. Mais effectivement, j'ai besoin de ce rapport à la terre et d'aller voir mes copains maraîchers autour. J'ai des amis d'enfance qui ont une ferme bio juste à côté de chez moi. Donc oui, j'ai besoin d'être en contact permanent avec ça. Ouais.
Ça arrive avec l'âge, avec le temps.
Et je crois, alors vous voulez que je vous dise, oui, je pense qu'avec le temps qui passe, on a de plus en plus envie de retourner.
On se rapproche de la terre.
T'as raison. On se rapproche de la terre.
Merci Jérémy.
Et de ses racines, effectivement. Ouais. Et je sens que moi, j'adore Paris. Je suis un amoureux de Paris. Vous le disiez, je suis arrivé ici à 18 ans. Mais j'ai besoin de partir de Paris, quoi. C'est pour ça que ce magazine me permet d'aller dans nos régions, d'aller rencontrer des paysans, des producteurs. Et j'aime
beaucoup
ça. C'est
surtout pour vous que vous faites ce magazine.
Mais au départ, oui. Mais la cuisine, faut être un petit peu égoïste pour faire plaisir aux autres.
Bien sûr.
Le pack qui arrive, le festin de Pâques, pas mal de recettes qui sont proposées avec un dossier sur l'agneau aussi. On a parlé du chocolat tout à l'heure qui finalement trouve sa capitale en France à Bayonne, si on traverse l'histoire, avec une consommation où la France est quand même bien placée. Je crois que c'est plus de 7 kilos de chocolat par an et par personne.
Exactement.
En France.
Exactement, on adore le chocolat, absolument. Oui, on a fait un dossier chocolat avec des recettes autour du chocolat. Et puis ces artisans chocolatiers de Monsieur de Chocolat que je suis allé voir à Bayonne. Et là, vous prenez une claque parce qu'ils font un boulot fantastique. Alors oui, c'est une tablette tablette qui va coûter 5-6 euros peut-être la tablette, mais encore une fois, achetons moins de chocolat industriel.
Bonjour,
achetons une tablette comme ça pour... En fait, c'est de se rendre compte de la différence du goût. C'est pour ça que je parle beaucoup des saisons et de l'importance de la biodiversité aussi, parce que à force de bouffer une nourriture standardisée qui a le même goût tout le temps, où on mange de la même chose partout sur les quatre coins de la planète et qui est plus de richesse et plus de diversité de goût, on va perdre des différences de goût. Nous, on n'aura plus cette émotion par un chou de Bruxelles, un chou de Pontoise, un chou blanc, un chou rouge.
Non,
mais,
cauchemar.
Voilà, oui, c'est un cauchemar. Je vous parle des choux pour vous.
C'est quoi un chou de Pontoise?
C'est un chou
Pontoise.
Qui vient de Pontoise.
Exactement, qui est violet bleu. Ouais, qui est dans le deuxième numéro.
Et quand on revient au chocolat, j'ai juste dit plus de 7 kilos pour un Français, en gros. Mais au Japon, c'est 1 kilo par an et par personne. Et en Chine, c'est à peine 100 grammes.
Ah oui, c'est
dans le magazine.
Oui, je sais. Non, mais j'avais oublié que c'était 100 grammes.
C'est étonnant.
100 grammes, c'est très peu. Ça m'étonne, ça, que ce soit que 100 grammes.
Je vais vous retrouver la page.
Ouais.
Je vais vous retrouver la page. Je vais vous expliquer. Ouais. Mais tout de suite, dans la bande originale, c'est surtout notre cher Tanguy Pastureau.
Ah oui.
Chocolat.
Hier, j'étais sur Twitter, je suivais l'avancée des troupes russes vers l'ouest en me disant « Madou et Benny guettent sur la tête de Madame Loïc, au rythme où ils vont, dans 15 jours ils sont dans la rade de Brest », quand soudain est apparu un tweet de TV Magazine. Je me suis abonné pour suivre l'actu des stars de la télé, Laurent Mariotte, vous, Leïla, pas Daniel Morin. Hein, une fois j'ai cru le voir à la télé, dans les animaux de la 8, hein, je m'étais dit « Mais pourquoi Daniel se lèche-t-il le derrière ?» Je croyais qu'il n'y avait que dans le bureau inter qui faisait ça pour amuser les stagiaires de 3e. En fait, c'était un chat qui lui aussi avait la toison grise. Bref, figurez-vous que TV Magazine a interviewé April Benayoum. Ah. Alors, je sais, auditeur de France Inter, mon loup lettré, tu ne vois pas de qui il s'agit. Toi, dès qu'on sort du triptyque, Dominica, Laura Adler, Xavier Dolan, il n'y a plus personne. Et encore, notre prochaine patronne, c'est une spécialiste de philo. Hein, ça va nous changer de Laurence Bloch. On pouvait discuter densité capillaire anarchique et pull qui bouloche. Maintenant, dans les couloirs, on va parler de quoi? De Spinoza, quoi. Enfin, je suis mal. Hein, au bac en philo, j'ai eu 7. Ma référence ultime, c'est Luc Ferry. J'espère que pour faire une moyenne, en sous-directeur, ils vont prendre Mathieu Delormeau ou Aurore Berger. Enfin, quelqu'un qu'on comprend. Un chien qui a voté Pécresse à la primaire allerge. Donc April Benayoum, c'est une jeune fille de 22 ans qui fut première dauphine Miss France 2021, la place la plus ingrate du classement, numéro 2. Anne Hidalgo, pour l'instant dans les sondages, est 20e, ce qui est d'autant moins bon qu'il n'y a que 12 candidats. Ben, elle pourra dire, ok, j'étais loin, mais numéro 2, c'est rageant. Seulement April a pris sa revanche sur le destin. Elle s'est battue, c'est la reine de la résilience. Durant ses séances, son psy transpire de désir tandis qu'elle parle, puisque dans 15 jours, elle représente la France à Miss Monde. C'est ça l'avantage d'avoir un corps super, on peut éclater les autres pays sans tirer un coup de feu. Ainsi, Poutine avait fait un peu de pilates pour muscler son boule et s'était rasé autour du nombril, on n'en serait pas là. Hein, mais non, des années à rester là assis face à une table, à barrer la carte de l'Ukraine au bic, ça vous flingue un physique, un feignant. Donc, April Benayoum était en interview. Titre de l'interview, l'aventure Miss France a tué mes cheveux. Hein, elle explique qu'elle a une nature de cheveux fragile et que les passer à 200 degrés sur un an pour les boucler, ça les a défoncés. Hein, elle a l'extérieur de la tête dans le même état que l'intérieur de la tête de Francis Lalanne. Maintenant, dit-elle, elle doit porter des extensions. Ça fait la même chose que le kilt du prince Charles. Hein, vu comme ça, c'est beau, mais si on soulève, il y a tout là-dessous qui est pourri. Hein, puis après, il a expliqué le principe de Miss Monde. Alors au départ, on va présenter les 97 candidates. En fait, 97, ça va être encore plus long que les Césars. Puis une fois les 97 passées à la 16e heure de live, chacune va repasser avec son costume national. Ça va être de la foire aux clichés. Hein, je pense que la nôtre va être un béret à cheval sur un coq transgénique. Miss Italie parlera avec les mains, tandis que Miss Biélorussie dira « Moi, je fais comme Miss Russie, enfin super hein, ». Puis chaque Miss répondra à une question du Jean-Pierre Foucault à dimension mondiale, en anglais, genre « Are you happy to be here ?»« Oh yes, I'm very glad, I love the world, XOXO bon. ». Et au bout de 32 heures de direct, on aura notre Miss Monde, ce qui n'a aucune importance, parce qu'autant on peut être patriote, autant le monde, on a du mal à se projeter. Julien Doré en concert à Dijon, il crie « Ça va Dijon ?» Pas « J'en place une pour le monde !» Parce que personne ne se sent concerné. Si quand votre femme au téléphone vous dit « T'es où là ?» vous répondez « Quelque part dans le monde », je suis pas certain qu'elles le prennent bien. Vous savez à quel point les bonnes femmes sont susceptibles. Hein, oui, on voit plus trop Olivier de Benoît, alors je me dis qu'il y a peut-être une place à prendre. Et là, vous vous dites, oui, cette interview manque de soufre. Est-ce que la petite se lâche à un moment? Est-ce qu'on sait si Miss Pays-Bas s'est associée à Miss Colombie pour dealer de la drogue? Eh bien, alors, pas vraiment, mais April Benayoum raconte quand même, lors d'un gala Miss Monde, on avait des wraps dans la chambre d'hôtel. Le wrap, vous savez, c'est cette fine galette de blé dans laquelle on fout tout ce qui traîne, du saumon, du maïs, ta mère, un chat, des boulons. Bon, on roule le tout, alors ne pas confondre le wrap avec le rap, hein, parce que si vous voulez rouler Booba, il va faire une sacrée galette de blé. Hein, voilà. En plus, j'imagine donc que c'est lui qui roule. Hein. Bref, April raconte, on était en colloque de chambre avec Miss Belgique, puisque ça fonctionne comme un inter, il y a des Belges partout, quand on a constaté, dit-elle, que le wrap de Miss Belgique quoi avait été volée.
Oh. Non.
Ah, ah, si. Alors aussitôt, cette dauphine Miss France a partagé son wrap avec la Belgique. Ouais. On n'a pas eu besoin d'Ursula von der Leyen pour faire l'Europe. Hein. Mais ça signifie qu'à l'intérieur du concours Miss Monde, il y a une voleuse de wrap. Hein, j'en parlais tout à l'heure avec Alexis Le Rossignol, qui m'a dit ça, c'est un coup soit de Miss Roumanie, soit de Miss Bulgarie. Effaré par ton racisme, j'ai alerté les autorités qui ont agi. Alexis a été condamné à passer 3 semaines avec Taubira sur un stage intitulé « Vivre ensemble et culture woke ». Et bon, on pourrait trouver ça amusant tout ça, mais moi que des Miss, les êtres les plus candides au monde à égalité avec les chatons, veulent de la nourriture, mais ça m'écœure. Alors bien sûr, à TV Magazine, ils n'ont rien trouvé à redire, ils sont habitués à la délinquance. Hein, je rappelle qu'ils fréquentent Karine Le Marchand, qui contre rémunération refuse des filles à des paysans. Enfin, le milieu de la télé, c'est que dépravation, fausse valeur et schnouf. À part vous, Leïla et Laurent Mariotte, qui j'imagine a dû préparer un jour des wraps.
Bravo, Tanguy Pasturo.
Tanguy qui, le 14 avril, sera à Toulouse au Casino Barrière.
Oui. Classe.
On va claquer tout l'argent.
Ouais. Il y a mieux manger sans se ruiner aux éditions Solar. Il y a ce magazine, Les Petits Plats de Laurent Mariotte. Tous les 2 mois, c'est le 3e numéro. Et d'autres événements dans la culture. Quel élément incontournable de la culture italienne va être reconnu par l'UNESCO ?
Les nourritures.
La pizza.
Les pâtes.
Les pâtes et la pizza, la bolognaise. Je pense que c'est déjà...
La sculpture.
La gondole.
Le parmesan, non
Mais on parle de nourriture.
C'est la nourriture de la culture.
Quel élément incontournable de la culture italienne va être reconnu par l'UNESCO ?
Pas forcément à manger.
Comédia dell'arte.
Alors, c'est culinaire, bien sûr, pour
la mozzarella.
Non, pas la mozza.
La trattoria ?
Non plus.
Parmesan ?
Non.
La pizza ?
Le pesto.
C'est vraiment une habitude assez courante ici en France ? Souvent le matin ?
Le café, le limoncello.
L'expresso.
Tu as dit limoncello le matin.
Limoncello qui a dit ça.
Mais c'est pas ce matin qui m'a fait penser à ça.
C'est ça.
Boire un expresso, la demande d'inscription au patrimoine de l'humanité, pardon, a été envoyée par le ministère de l'Agriculture. D'ici le 31 mars, ce sera soumis. Donc, on verra si éventuellement l'expresso va entrer dans le panthéon de la culture italienne. Est-ce qu'il y a un pays où vivre ailleurs qu'en France, dans un point de vue gastronomique?
Bah, vous venez de le dire, l'Italie. Voilà.
Forcément.
Bah, évidemment. Ouais. C'est quoi un Français? C'est un Italien qui fait la gueule. Donc, la cuisine, c'est pareil. Elle est joyeuse, elle est lisible, la cuisine italienne. Elle est simple, elle est paysanne, elle est rustique. C'est vraiment la fête du produit, quoi. Que ce soit le légume, les sauces, les ragoûts. Enfin, moi, je suis un dingue. Et les fromages, ils ont une belle culture du fromage aussi.
Vous êtes prêt à vous damner pour manger un plat italien?
J'adore aller en Sicile, pour tout vous dire. Et c'est vrai que je suis un dingue de la cuisine sicilienne.
Parce que là-bas, il y a une huile d'olive dingue.
Il y a une huile d'olive dingue. Il y a ces chapelures dont je vous parlais quand même. Un petit peu partout qui apporte du croustillant et de la gourmandise. Voilà, il y a le légume, quoi. Il y a ce légume d'été. Quand vous y allez en été, c'est la fête au végétal.
Ouais. Et le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est aussi une façon. Vous parlez dans le magazine, par exemple, des AOP. Vous parlez du pruneau d'Agen. Vous parlez du gruyère aussi. Oui. Il y a une guerre sur le gruyère en ce moment, puisque l'appellation gruyère, elle n'est plus exclusivement réservée au fromage français.
Exactement.
Les Américains la revendiquent.
Oui, alors on a eu la même chose avec le champagne et les Russes. Hein. Mmh. Les champagnes, les Russes qui ont voulu appeler une espèce de vin pétillant du champagne, et ils ont eu le droit. Donc on a du mal à protéger la moutarde de Dijon. Pareil, ça ne se protège pas. Vous allez au Canada, vous avez de la moutarde de Dijon. Donc effectivement, on a des problèmes parfois pour protéger. C'est pour ça que l'UNESCO, même notre repas inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est quelque chose de bien parce que ça affiche comme ça une sorte de... Ça sanctuarise un petit peu des habitudes qu'on a en France avec le séquençage du repas tel qu'on le fait chez nous. Et on est le dernier pays encore au monde à passer autant de temps à table que ça. Et ça, c'est vrai que c'est tellement important. On le sait tous, la pause déjeuner, le dîner à la maison, de prendre du temps à table pour parler, pour discuter, pour se faire plaisir autour d'un plat. Ouais.
Laurent Mariotte célèbre l'arrivée du printemps dans son magazine Les Petits Plats de Laurent Mariotte avec des recettes, avec des infos, des reportages. On a parlé de Bayonne. Il y a le Vercors aussi où vous rencontrez des fromagers, des céramistes, des chefs.
Des brebis.
Les dossiers aussi autour d'un aliment, que ce soit l'asperge, le pomelo, il y a une déclinaison de recettes tout autour
de ça, absolument.
Le chocolat, on fait du beurre au radis.
Oui, exactement.
Je découvre ça.
Ça, c'est simple. Moi, j'adore. Vous prenez votre radis, vous le taillez en petits morceaux avec les fans, vous le mettez avec du beurre mou, vous refigez tout ça et vous avez du beurre à tartiner au radis. Voilà.
On veut partir en vacances avec Laurent.
J'ai envie de dire des mots au hasard pour que ça découle d'une recette automatiquement.
Les pastas, forcément, trouvent dans ce magazine aussi plein de recettes à partager. manger. Et puis la cuisine, c'est de la chimie. On apprend aussi des choses d'un point de vue, parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne.
Comment ça marche,
ouais. Ouais, comment ça marche, dit Jamy, avec la vinaigrette ou la mayonnaise. Exactement. Là aussi, vous donnez des astuces.
Les émulsions, absolument. Alors, il y a cette fameuse règle d'avoir tous les ingrédients à température ambiante. Il y a le fouet ou la fourchette. Mais voilà, le jet d'huile, par exemple. Attention de ne pas mettre toute votre huile d'un coup. C'est d'y aller petit à petit et d'avoir les ingrédients à température ambiante. C'est vrai que c'est de la chimie, oui. On fait ça à chaque magazine. On s'amuse à passer en revue comme ça des classiques, oui.
Y aller petit à petit, je pense que c'est pas mal pour Daniel Morin.
C'est vrai. En douceur.
Avec le héros du jour, Daniel.
Et aujourd'hui, chers amis, mon héros du jour aurait dû être Kylian Mbappé. Oui, car ce bon kiki s'est vu proposer une prolongation de contrat, comme on en voit rarement à France Inter. Ouais, 50 millions nets par saison, plus, allez, un petit bonus à la signature, 100 millions. 50 millions par an, pas mal. On est sur un gros 4 millions par mois. Tu peux en acheter des litres de poppers, Maléila. Alors, oui, Kylian Mbappé aurait dû être mon héros du jour, mais ça c'était jusqu'à hier, juste avant que je tombe sur ce magnifique magazine, Les Petits Plats de Laurent Mariotte. Le numéro 2, hein, c'est pas le dernier, mais je l'ai eu moins cher, du coup. Alors, Laurent Mariotte, à qui je fais confiance quand il parle de bouffe saine, puisque, et c'est assez extraordinaire, Laurent Mariotte a la même tête aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Toujours ce visage angélique, avec ce sourire
tu parles.
Énigmatique, hein, un peu un sourire à mi-chemin entre celui d'Evelyne Delia et de Michel Fourniret. Alors, c'est horrible. Je me suis régalé à la lecture de votre magazine, Laurent, et surtout, arrivé page 50, j'ai eu la révélation, j'ai eu l'épiphanie. Je suis tombé sur votre article dont le titre résonne comme une prévision de Nostradamus. Oh, oui. Le grand retour de la lentille. Oh la vache, je l'avais pas vu revenir, la lentille. Alors attention, le titre peut affoler.
Laurent Mariotte Productions présente le retour de la lentille. On la croyait disparue, voire morte, mais il n'en était rien. Elle attendait son heure pour revenir et se venger dans nos assiettes. Le film le plus angoissant de l'année, avec le légume le plus dégueulasse du monde, c'est le retour de la lentille.
Ben non, on n'est pas dans l'angoisse, les amis, pas du tout. On est dans la promesse de grands moments de régalade. Et ce, même si Laurent Mariotte tient un discours légèrement anxiogène en disant « Il sera difficile de trouver de la lentille du puits cette année. » Il nous rassure illico en ajoutant « Heureusement, la grande famille des lentilles est riche en couleurs. » Et juste après, oh mon Dieu, juste après, il nous donne une recette de rêve. Une recette aussi gourmande que sensuelle. Celle du riz au dalle de lentilles corail.
Ça, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est bien ça.
Un dalle de lentilles.
Oignon. Ça, c'est bon ça. Hein.
Ail. Ouais. Curcuma. Ouais. Piment rouge. Curry. Patate.
C'est nous.
Carotte. Lait de coco. Lentilles corail. Ajoutez coriandre et citron vert. Servez avec un petit basmati. Oh putain! Le tsunami de saveurs! Alors oui, aujourd'hui, mon héros du jour est sans contestation possible. La lentille!
Bravo! Oh, ça craque! C'était la meilleure! C'était la meilleure, cette lentille!
Heureusement qu'on est fin juin.
Et franchement, prenez Daniel avec vous sur le terrain.
Et
il va vous faire des trucs incroyables.
Ah ouais, duo Laurent Mariotte, Daniel, ça serait chouette.
Ça serait magnifique.
Et la lentille verte, la lentille corail qui n'a pas de pellicule, c'est pour ça qu'elle cuit vite. C'est que l'amande, il n'y a pas la pellicule. Donc on peut en faire une purée de la lentille corail.
Il sait tout faire.
Toutes ces astuces de Laurent Mariotte à retrouver dans son livre Mieux manger sans se ruiner ou dans ce magazine avec des rencontres, on l'a dit, notamment Pascal Obispo qui est fils et petit-fils de vigneron, je l'ai appris à cette occasion.
Exactement. Ah voilà. On t'a entendu. Et il a composé cette chanson au milieu des vignes d'ailleurs.
Ah, voilà, la boucle est bouclée avec Pascal Obispo, avec Patrick Peloux aussi, et son manifeste pour mieux manger dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Des promenades comme ça dans le Pays Basque, des déclinaisons de recettes, tout ça dans ce magazine et dans ce livre avec des astuces anti-gaspi de Laurent Mariotte. Et puis que vous réservent les mois qui viennent, sur quel projet vous bossez, est-ce qu'il y a un autre livre en préparation au-delà de votre actualité qu'on va rappeler
Un autre livre probablement, et je réfléchis là, j'étais dans les Vosges justement ce week-end, pour, pas tout de suite mais je vous tiendrai au courant, pour faire le premier festival de la cuisine rurale. Un festival où on va transmettre des recettes paysannes, des recettes familiales avec des producteurs locaux et puis des gens cuisiniers amateurs qui vont aussi partager leur tour de main. Ouais.
Parce que cette passion-là de la cuisine que vous avez, elle ne s'éteint jamais.
Non, bah, non, mais
je me demande, quand je vois les livres de recettes, je me dis, est-ce qu'à un moment il en a pas ras-le-bol de se dire, allez, faut faire encore un truc. Qu'est-ce que je vais faire avec l'asperge, voilà.
Oui, oui, mais vous avez raison.
Parce que moi, à titre personnel, quand je suis dans ma cuisine, je me dis, qu'est-ce que je vais faire encore avec l'asperge?
Eh ben, l'asperge, vous allez voir dans Petit Plan d'équilibre prochainement, un truc que j'ai jamais fait, je vais la retirer au four. Je l'ai cuite à la vapeur, je l'ai blanchie, mais je vais la cuire au four.
Mais l'idée de Morgane tout à l'heure était bonne. Vous devrez la reprendre,
la recette nulle.
Non, les gros plats qui se cassent la gueule ou des trucs comme ça.
Non, ce que je voudrais faire, blague à part, c'est petit plat pas en équilibre du tout. Petit plat en équilibre, pas du tout. Mais comment on dirait? Pas petit plat pas en équilibre.
En déséquilibre
du tout. Oui, non. Pas du tout en équilibre. Petit plat pas du tout en équilibre, avec que du gras.
Parce que pour vous retrouver Laurent Mariotte, soit en librairie, soit chez votre marchand de journaux, mais aussi sur TF1, tous les jours à 11h45, avec petit plat donc en équilibre, et vous pouvez essayer de jouer avec un numéro surtaxé, j'imagine.
Bien sûr.
Et puis à la radio sur Europe 1, disons-le, le samedi de 11h à 12h30, et le dimanche aussi avec la table des bons vivants et la table du dimanche.
Très gentil.
Précisons-le, bien sûr. Et on aime pour autant toujours autant notre François-Régis Gaudry dont on suit.
Et vous avez bien raison.
Et vous avez la même ligne. Vous avez la même ligne tous les deux. Il y a un secret ou pas?
Bah, manger, bouger. Voilà.
Manger, bouger.
C'est ça. Mais vraiment, hein. Souvent on pose la question. Mais oui, en mangeant un petit peu de tout et ne pas tout le temps la même chose, effectivement. Et encore une fois, on en revient aux saisons qui sont là pour diversifier notre alimentation naturellement. Et les quantités. C'est vrai qu'on a beaucoup, générationnellement, pensé que bien manger, c'était beaucoup manger. Voilà. Il y a aussi une question de portion, bien sûr.
Il est temps de vous présenter nos excuses, Daniel.
Absolument. Déjà. Alors, désolé pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont choqués. Quand on dit sauce au lieu de sauce, quand on dit pause au lieu de pause, grosse au lieu de grosse, désolé, mais c'est comme ça qu'on prononce en 2022. Écoutez la caution culture de cette émission.
Non. Vous étiez dans les Vosges.
Ouais, on dit plus les Vosges, c'est comme ça. Léa l'a dit, c'est validé. On la ramène moi maintenant, les gars. Désolé pour l'Espagne, sa cuisine, son histoire, sa tradition. Franco, le Real Madrid, Anne Hidalgo, qui se sont sentis insulté par l'infâme Jérémy Crédville et sa définition insultante de la paella.
Mais allez, on met tout, du riz, des petits pois, du chorizo.
Et voilà, il mélange tout. Quel salaud, tu mérites la mort, fils de chorizo. Désolé pour Laurent Mariotte qui, on l'a appris, doit se rendre pour son magazine dans une région sinistrée, ravagée, humiliée, tambourinée. Je ne parle pas de l'Ukraine, non, c'est le Nord, le Pas-de-Calais, la misère.
Bonjour à Morgane.
Courage, soldat. Désolé, enfin, pour notre invité, Laurent Mariotte, qui nous a mis l'eau à la bouche en parlant de bons produits, de recettes délicates, et qui, ce midi, va découvrir, grâce à moi, la cantoche de Radio France. Alors, venez, n'ayez pas peur, Laurent, c'est une ambiance très étonnante. Des plats très très bouleversant, un accompagnement très 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 extravagant, et en général ça finit par une gastro très 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 émouvante.
Merci Laurent Mariotte.
Bravo, merci à vous, merci infiniment pour
votre
accueil.
C'était passionnant, c'était super d'être avec nous aujourd'hui, merci, et pour les crêpes Alexandre.
Et bravo
Alexandre.
Alexis, mais je me suis dit je vais rattraper ça en disant merci pour les crêpes, et en fait je me suis complètement planté.
Bonjour à Alexis Kominek.
Et bonjour à Alexis Kominek. Et bonjour à Philippe Bertrand aussi. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Léla. Bonjour les amis. Et le festival de la cuisine rurale, je suis preneur.
Ah,
ça m'intéresse.
Ouais, va falloir voir Philippe Bertrand, bien sûr.
Oui, volontiers.
Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Aujourd'hui, on continue notre traversée de la Savoie, puis on va s'arrêter aussi dans le Val-de-Marne, à Sucy-en-Brie. La ville, pendant le confinement, a ouvert un système de click, collect and click. On peut aller chez les commerçants à distance, les artisans, ça s'appelle Sucy of Course, et maintenant, il y a un service de livraison à vélo avec Emmaüs, Vélo of Course.
Merci Philippe Bertrand, passez une belle journée sur France Inter. Demain, on sera avec Jean-Charles Le Castel-Bajac.